Deutsche Welle Magazine Santé.
Sensibiliser les jeunes pour qu'ils deviennent acteurs de leur santé, en particulier en ce qui concerne la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles. C'est le but du projet Jeunes et Adolescents en Santé, JAAD. Mais avant de parler de cette initiative, nous irons au Tchad, où la malnutrition aiguë sévère touche de plus en plus d'enfants. Carole Assignon, micro, vous écoutez le magazine Santé. Au Tchad, le nombre croissant d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère inquiète. Les hôpitaux et plusieurs autres structures de santé peinent à prendre en charge les enfants de moins de 5 ans malnutris. C'est pourquoi l'ONG Médecins sans frontières a ouvert fin juillet, en partenariat avec le ministère de la Santé publique du Tchad, un centre nutritionnel thérapeutique à N'Djamena pour répondre à cette situation critique. Blaise Daruston, notre correspondant à N'Djamena, la capitale tchadienne, s'est rendu dans ce centre pour le magazine Santé. Son reportage.
Ces cris sont ceux d'enfants atteints de malnutrition aiguë sévère, hospitalisés au centre nutritionnel installé par l'ONG Médecins sans frontières en plein quartier Ndiari, dans le 7e arrondissement de la capitale tchadienne. Une soixantaine d'enfants de moins de 5 ans y sont admis. Une situation qui résulte de l'effet cumulé de la baisse du pouvoir d'achat qui frappe la population, mais aussi d'une insécurité alimentaire saisonnière particulièrement sévère cette année. Sans oublier la grève de la fonction publique qui touche le secteur de la santé depuis plus de 4 mois. Bénédicte Lecoq, coordinatrice d'urgence de Médecins sans frontières à N'Djamena.
Nous avons été alertés par l'ONG Alima Alerte Santé, qui depuis plusieurs années prend en charge les enfants malnutris sur la ville de N'Djamena en partenariat avec le ministère de la Santé. Ils ont constaté une augmentation du nombre de cas et ils avaient des difficultés à faire face. Donc nous sommes arrivés ici pour ouvrir un certain nombre de lits pour pouvoir désengorger les structures de prise en charge qui étaient complètement submergées par les enfants malnutris sévères. Mission classique MSF. C'est parfois un petit peu compliqué pour l'approvisionnement en Plum Peanut, mais par rapport au délai de livraison de l'UNICEF, qui arrive parfois un petit peu tard, sinon tout se passe bien.
Au jour le jour, le nombre d'enfants admis dans le centre ne cesse d'augmenter. Mais pour Patient Kioma, responsable de la structure, malgré l'affluence, son équipe fait de son mieux pour sauver des vies.
Nous assurons donc la prise en charge de tous les enfants malnutris sur deux volets. Le volet de la prise en charge de tous les enfants sans complications médicales, et ça c'est fait au niveau de nos unités nutritionnelles en ambulatoire. Et au niveau de l'unité de prise en charge médicale ici, nous prenons en charge tous les cas qui ont des complications médicales. Nous sommes autour de 75 enfants qui sont là présentement. Chaque semaine, on a vu une augmentation. On est parti de 30, 50. Là, on est à 75. Il y a des enfants qui arrivent déjà très, très malades. Et donc, il y a quelques cas de décès. Voilà, la prise en charge continue. Les médecins, les infirmiers, toutes les équipes, elles sont là pour essayer de minimiser, réduire au maximum le nombre de décès au sein de la structure.
Patient Kioma déplore toutefois le fait que les parents n'amènent généralement leurs enfants dans ce centre que lorsqu'ils atteignent le stade le plus grave de la malnutrition.
Il y a une grève dans tout le système sanitaire et donc les enfants, ils arrivent parfois dans un état très grave parce que dans l'état initial, ils ne peuvent pas se rendre même dans les structures sanitaires comme il y a une grève du personnel de santé. Et du coup, on a une proportion importante des enfants qui arrivent et qui passent directement par les soins intensifs, c'est-à-dire dans l'unité de réanimation. Il y a peu qui passent dans les unités où c'est des enfants qui sont déjà stables. Et donc ça, c'est la première difficulté parce que ça fait beaucoup de travail au personnel, ça demande plus d'équipement, ça demande plus d'expérience. Nous avons tous nos médicaments, nous avons du personnel que nous sommes en train de former au fur et à mesure et qui s'adapte très très bien.
Plusieurs mères d'enfants atteints de malnutrition aiguë sévère, admis dans ce centre, parviennent à retrouver le sourire tout de même. Baïdandjiro Madifouébé s'est dit soulagée et satisfaite du service offert par l'équipe de Médecins sans frontières pour sauver son petit-fils, admis il y a 2 semaines dans un état de coma.
Nous sommes partis au centre d'Ambata qui nous envoie ici. L'enfant était rentré calmement dans le coma. C'est comme ça qu'on nous a expédiés ici. Donc le matin quand on était parti là-bas, nous on pensait que l'enfant allait partir, mais ils ont couru jusqu'à on était arrivé ici. Et tout le monde est réuni sur lui pour faire ce travail. Ils l'ont réveillé dans de bonnes conditions. Et depuis qu'on est arrivé, on nous a soigné 105 francs. On nous a vraiment rendu un grand service. Et l'enfant maintenant est vivant. Il est maintenant entre nos mains. Et maintenant, il a la famille, il veut maintenant manger. J'étais contente parce que ce qu'ils ont fait avec moi, je ne peux pas oublier.
Même réaction pour la jeune mère Amne Ramadan, qui après 3 semaines d'hospitalisation, a vu son fils passer du stade de malnutrition aiguë sévère à l'état de santé presque normal.
Lorsque j'ai amené cet enfant que vous voyez ici il y a 3 semaines, je ne savais pas qu'il allait survivre. Mais aujourd'hui, il est en train de reprendre petit à petit sa forme. Il sourit et il a de l'appétit.
Contrairement à l'année 2017 où une enquête coordonnée par le ministère de la Santé publique avait fait mention d'un taux de malnutrition infantile en Djamena au-dessus des seuils d'urgence, cette année, le nombre d'enfants sévèrement malnutris a atteint des proportions inquiétantes. 45% en Djamena selon l'ONG Aliments qui prend en charge une centaine d'enfants admis à l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine. Selon les estimations, le nombre d'enfants malnutris au Tchad pourrait atteindre 50 000 cette année. Blaise Dariustan, en Djamena, pour la Deutsche Welle.
Vous écoutez le magazine Santé. Après la malnutrition au Tchad, nous allons aborder à présent un sujet souvent considéré comme sensible, la sexualité chez les jeunes. Des jeunes qui, pour la plupart, ont des connaissances limitées en matière d'infections sexuellement transmissibles ou de VIH-SIDA et qui sont confrontés à un déficit d'accès à une information de qualité et qui doivent faire face à des facteurs socioculturels liés aux tabous qui entourent le sexe. C'est pour pallier tout cela que le projet JAD, Jeunes et Adolescents en Santé, a été mis en place au Mali et au Niger. Mélanie Vion est responsable de projet Mobilisation communautaire, Promotion de la Santé, Structuration associative de l'ONG Soltis, Solidarité thérapeutique et Initiative pour la Santé.
Le projet JAD est fondé sur le constat que en Afrique subsaharienne, on a à peu près 610 000 nouveaux cas d'infection chez les jeunes entre 15 et 24 ans par an, dont 60% concernant les jeunes adolescentes. Ils se fondent sur la volonté pour Soltis de travailler sur l'ensemble de l'environnement sanitaire des jeunes, en travaillant sur l'offre de services en santé sexuelle et reproductive des jeunes, en travaillant pour que cette offre soit adaptée à leurs besoins, mais aussi en travaillant sur ce qu'on appelle plutôt la demande avec des volets d'activités qui concernent l'accès à l'information sur la santé sexuelle et reproductive. Donc au Mali, on travaille avec 2 associations, l'une à Bamako qui s'appelle l'ASDAP et l'une à Ségou, un peu plus au nord de Bamako, qui s'appelle Walé. Et au Niger, on travaille avec notre partenaire à Niamey et à Maradi, la FIA Matassa.
Vous l'avez dit, le projet cible 2 pays, le Mali et le Niger. Pourquoi ces 2 pays?
Parce que il y a un taux de prévalence important de VIH, parce que aussi ce sont des pays dans lesquels travaillait Soltis déjà avant 2015, puisque le projet a été lancé en 2015. Et donc notre expertise aussi du terrain nous semblait pouvoir contribuer à une action plus efficace dans ces 2 pays.
Quand on travaille sur des thématiques comme la sexualité, il y a plusieurs facteurs, notamment socioculturels, qui entrent en jeu. Comment vous arrivez à surmonter les tabous, notamment autour de la sexualité, pour faire parler les jeunes dans ces 2 pays?
On met en place une action qui se décline en plusieurs volets d'activité, en formant des jeunes qui deviennent des sortes de référents sur la santé sexuelle et reproductive auprès d'autres jeunes, qui vont pouvoir transmettre les informations sur la santé sexuelle et reproductive, discuter avec les jeunes dans des groupes restreints des différents enjeux liés à la planification familiale, au VIH-SIDA, mais aussi aux représentations sur la sexualité en général. On travaille aussi sur d'autres activités de mobilisation, soit par des tournois sportifs, d'investir les jeunes dans ces activités et de diffuser les messages en santé sexuelle et reproductive.
Alors, une chose est d'informer les jeunes, c'est important qu'ils aient l'information, mais il y a également l'entourage qui joue un rôle important. Est-ce que les familles, les communautés sont également impliquées dans ce processus?
Oui, tout à fait.
Et jusqu'à quel degré?
Avec les communautés, par exemple, on va former des personnes reconnues dans leur communauté, ce qu'on va appeler des leaders. On va les former sur la santé sexuelle et reproductive, sur la nécessité de dépasser les tabous et de discuter avec les jeunes quand ils en ont besoin sur leur santé sexuelle. Et donc, ces leaders qui sont formés vont pouvoir ensuite parler, développer aussi des activités auprès de leurs pairs, auprès des communautés au sein desquelles vivent les jeunes. Après, avec les soignants, par exemple, on a fait un gros travail de formation après avoir identifié que les jeunes, notamment, se rendaient peut-être plus difficilement dans les centres de santé parce que les soignants n'étaient pas dans un accueil systématiquement bienveillant, non jugeant, alors que c'est un besoin pour ces jeunes de pouvoir être accueillis de la manière la plus bienveillante possible au sein des centres de santé. Donc, on a fait aussi un gros travail auprès des enseignants. Au Niger, il y a des modules qui sont mis en place dans les écoles et qui sont dispensés par les professeurs en fonction des âges, où voilà, des informations sur la santé sexuelle et reproductive vont être transmises.
Est-ce qu'il y a quand même des points de blocage que vous avez toujours du mal à surmonter? Parce que quand même, le sujet de la sexualité reste très délicat, notamment en Afrique.
La difficulté peut être effectivement ces tabous liés à la sexualité, liés à des représentations socioculturelles, sur le genre aussi par exemple, sur lesquels nous, on tâche de travailler par la diffusion d'informations via les messages de santé publique, mais aussi en essayant de travailler sur les représentations. Pour provoquer du débat, on est dans une logique où on transmet de l'information, on libère la parole. On travaille de manière très complète avec les filles comme avec les garçons. Il y a énormément de représentations qui font de la jeune fille, la principale responsable de la sexualité, et qu'elle doit faire en sorte de se protéger, de faire attention aux garçons. Et on investit un gros travail dans l'implication des garçons en faisant des séances d'éducation à la santé où on va parler de contraception, où on va les impliquer en leur indiquant qu'ils sont de la même manière que les jeunes filles responsables de ce qui se passe et des conséquences lorsqu'ils ont une sexualité active.
Et c'est avec ces explications de Mélanie Vion, responsable de projet de l'ONG Solstice, que prend fin ce magazine. Merci pour l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.